Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver cette semaine pour un tournage en extérieur d'Arrêt sur Image. On a fait un truc incroyable, on a franchi le périphérique parisien et nous sommes exactement aujourd'hui à Sevran, au bar PMU Le Jockey Club. Alors le bar PMU Le Jockey Club, nos abonnés le connaissent bien et les téléspectateurs de France 2 le connaissent bien aussi, puisque c'est ce bar où le 20h de France 2, le 7 décembre de l'année dernière, a expliqué qu'il n'y avait pas de femmes, que les femmes étaient interdites. Voilà, le Jockey Club. Alors on va y entrer, on va y tourner aujourd'hui notre émission et j'espère qu'on va y trouver des femmes. Le suspense est vraiment insoutenable. Voilà, on arrive au Jockey Club. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour, tout va bien?
Comment ça va?
Alors pour l'instant, il n'y a pas énormément de femmes, donc peut-être que France 2 a dit la vérité, sait-on jamais. On va poursuivre notre exploration du Jockey Club. Eh bien voilà le patron qui est derrière son bar, monsieur Amarsali. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors merci beaucoup de nous accueillir.
Ben, ça, c'est un plaisir de recevoir toute l'équipe pour démontrer une vérité. Une vraie vérité, voilà, d'avoir le courage déjà de venir. On vous remercie, tous les Sevranais vous remercient, et moi en
Et
particulier.
les Sevranaises aussi, j'espère.
Tout à fait, les Sevranaises, bien sûr.
Surtout les Sevranaises. Très bien, alors vous êtes dans une seconde, si vous voulez bien, on va vous arracher au service pour venir vous asseoir avec nous pour participer à l'émission. Mais d'abord, le temps de dire bonjour à tous les consommateurs qui sont là.
Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tout le monde.
Vous êtes un habitué du Jockey Club?
Mon fils était élève au conservatoire de musique en face. Et quand je trouvais les répétitions un peu longues, je venais boire un café ou un thé à la menthe ici.
Voilà. Et alors, dites-moi, est-ce que vous y avez vu des femmes?
Bien sûr. Alors, majoritairement des hommes, mais c'est un endroit où on joue.
C'est un PMU, hein, il faut le dire.
Voilà, c'est un PMU, on joue soit aux courses, soit à des jeux de grattage. Donc c'est majoritairement des hommes, comme dans tous les PMU de France et de Navarre. Après, bien sûr qu'il y a des femmes qui entrent, qui jouent, qui boivent un café et qui ressortent.
Et alors, immédiatement, la preuve par l'image. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Alors, est-ce que je peux vous demander votre prénom?
Jacqueline.
Vous êtes Jacqueline. Et alors, donc, est-ce que vous êtes une habituée du...
Oui, je suis une très... Je joue, je viens jouer et tout. Puis il n'y a rien, hein. Franchement, la porte est grande ouverte, il n'y a pas de racisme et tout, parce que moi je suis israélite, donc la porte est grande ouverte, y a... non, franchement, on est bien accueillis.
Et vous jouez?
Et je joue, bien sûr, de temps en temps je gagne.
La dernière fois que vous avez gagné, c'était quand?
C'était à Amigo, 150 euros.
Ah ben dis donc, c'est pas mal, hein?
2 euros.
Ah ben ça
fait du bien.
150 pour 2 euros.
Voilà.
D'accord. Très bien. Alors, on va poursuivre un peu l'exploration du Jockey Club. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Très heureux de vous rencontrer.
Donc, je m'appelle Alain et donc je viens presque tous les jours ici. Hein. Donc,
Alors, je poursuis mon enquête. Est-ce que vous y avez souvent vu des femmes?
Oui, bien sûr, parce que j'amène quelquefois mon épouse, hein, qui est mauricienne, hein, de l'île Maurice, hein, avec ma fille aussi. Donc,
et tout se passe bien pour elle?
Absolument, absolument.
Elle joue?
Non, elle joue pas, elle me laisse faire, hein, parce que il m'arrive de temps en temps de gagner, mais pas toujours. Hein, donc...
Vous aussi, vous avez gagné 150 euros comme Jacqueline?
Non, pas en ce moment. La chance est passée, alors donc on joue un peu moins, quoi. Donc.
Pas toujours pour les mêmes. Hein. Très bien, merci bien. Alors, et je m'approche, voilà, des consommateurs qui sont là, des jeunes consommatrices. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment tu t'appelles?
Nancy.
Nancy. Et tu viens souvent ici au PMU?
Pas trop souvent.
D'accord. Mais t'es pas venu là juste pour qu'il y ait des femmes et des jeunes filles et qu'on dise, ah ben voilà, on voit bien qu'il y a des femmes.
Non.
D'accord. Oh, ben alors voilà, là, encore une jeune consommatrice, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une photo ou une vidéo là?
Une vidéo.
Tu fais une vidéo? Elle est en train de tourner ta vidéo?
Oui.
Ben non, ça va être une super image. Comment tu t'appelles?
Stéphie?
Eh ben bonjour Stéphie, tu peux continuer à filmer, hein. Comme ça on est plusieurs à filmer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la maman des deux?
Oui, je suis la maman des enfants, oui.
D'accord.
Ben, j'habite juste à côté, je suis la femme du gardien. Et moi je viens assez souvent ici, je passe tous les jours devant l'histoire de femmes qui rentrent pas, ça c'est pas vrai.
Parce que vous, ben, voilà, vous passez tous les jours devant, puis... Et puis même vous y venez de temps en temps, j'imagine.
Je viens de temps en temps et même mon mari, on nous propose des cafés, on vient avec du monde et on prend un café, on joue au jeu.
Voilà. Et tout se passe bien?
Et tout se passe super bien. Il m'offre même des fois un petit café.
Carrément.
Oui, et même ma tasse.
Ah bah, alors voilà, encore un truc que France 2 n'a pas dit. Merci beaucoup. Et alors à côté de vous, bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors vous êtes un habitué aussi ?
Oh, je viens de temps en temps ici, mais il faut que je vous dise, je suis membre des comités de quartier de la ville de Sevran. Je fais partie de l'association également de l'histoire de la ville de Sevran. On se bat sans arrêt pour casser l'image de Sevran. Parce que les reportages, comme on voit, style de Villardière, ce sont carrément des trucs tronqués. Parce que Sevran, c'est pas du tout ça. Sevran, c'est une ville ouverte. Regardez autour de vous. Ici, tout le café, c'est convivial. Tout le monde rentre, boit un coup, on discute. C'est quelque chose de super.
Et c'est bien ce que je vois. On a eu un accueil formidable quand on est arrivé. Très bien.
Je peux ajouter quelque chose ?
Bien sûr.
Il y a une certaine année, France 2, je crois, a fait un reportage sur la ville de Sevran. Je fais partie de l'association de l'histoire de la ville de Sevran. Sur tout le reportage qui a été fait, on avait présenté les anciennes entreprises, Kodak, Westinghouse et tout ça, il y a eu exactement 14 secondes qui est passé. Tout le restant, c'était Rougemont, c'était les dealers, c'était... C'est pas ça, Sevran. C'est pas du tout ça.
Très bien, mais merci de l'avoir précisé. Bonjour, madame.
Bonjour.
Vous êtes peut-être l'épouse de...
C'est ça, tout à fait.
D'accord. Et alors, je vous posais une question qu'on pose, je ne sais pas si on peut la poser, mais vous venez souvent ici au Jockey Club ?
Ah, d'accord.
Vous êtes venu pour l'émission, là ?
Oui, tout à fait.
Pour voir l'émission ?
Oui.
Très bien. Bah, écoutez, on va la tourner dans une minute.
La journée de la femme, elle était venue pour la journée de la femme. Elle était venue pour la journée de la femme.
Parce que pour la journée de la femme, vous avez fait ici quelque chose de particulier ?
Il a fait pour les femmes. La journée de la femme, il a fait le 8 mars, oui.
Ici, dans le café, ici au Jockey Club, qu'est-ce que vous avez fait de particulier ?
Il y a eu un bloc qui a diffusé. Ben, il a mis des amuse-gueules, ceux qui veulent boire l'apéritif. Il y a eu du champagne, je pense. Moi, j'en bois pas. Hein. Mais il a mis pas mal de trucs. Tout le monde était satisfait. Il y avait des femmes, c'était plein. Parce que moi, j'étais assise avec l'équipe ici. On n'avait pas de... Moi, je rentre tous les matins et je n'ai jamais été refoulée à la porte.
D'accord. Et alors... Bah ouais, mais en même temps, je pense que vous n'avez jamais été refoulée parce que je ne sais pas si je trahis un secret, mais vous êtes la maman du patron.
Oui.
Bah, j'espère bien que vous n'allez pas être refoulée.
Quand je venais au début, il n'y avait pas le patron, il y avait des ouvriers.
Ah d'accord. Voilà. Mais j'espère bien que le patron, il ne va pas refouler sa maman quand même.
Non, mais bon, et peut-être que ça ne lui plairait pas que je vienne.
Bah, faut lui demander. Hein. Très bien, merci beaucoup. Et il reste une dame qu'on n'a pas saluée. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Alors, est-ce que vous êtes une habituée vous-même du Jockey Club ?
Ah oui, je suis une habituée, sauf quand ma condition physique ne me le permet pas. Mais sinon, je viens ici régulièrement, presque tous les jours. Et je me dis quelquefois même, ah, c'est pas bien, mais je viens. Je viens souvent.
Et pourquoi ce serait pas bien ?
Ben, c'est juste des scrupules erronés de ma part. Hein, de ma part.
Mais pourquoi ? Ben, pour quelle raison ce serait pas bien de venir au Jockey Club ?
Non, mais parce que, bon, je viens faire des jeux.
Ah, c'est ça.
Je viens faire des jeux et puis discuter un peu. Alors, je dis, bon, ben, c'est-à-dire, quand je viens, je passe beaucoup de temps. Et puis, bon, je me dis, il faut que j'aille parce que, bon, j'ai des choses à faire dans le cadre de mes activités.
Alors, attention, parce que là, non seulement vous êtes là aujourd'hui, mais vous êtes filmé, je vous signale, puisqu'il y a derrière vous une paparazzi qui vous filme.
Eh bien, c'est tant mieux, je serai la vedette de la maison. Voilà.
C'est normal, les femmes, elles ne sont pas là cette heure-ci, elles donnent à manger à leurs enfants.
Bah, oui, mais enfin, il y en a quand même quelques-unes. Vous n'avez pas trop faim, les filles ? Non, ça va, ça va.
Mais moi, je mange à midi, puis là, j'ai fait une exception, parce que moi, l'heure, c'est l'heure.
Sinon, ici, les femmes, elles viennent. Bon, mais souvent, elles ne s'assoient pas pour consommer, elles restent au bar. Les hommes qui viennent ne vont pas venir les bousculer en disant « pousse-toi parce que j'ai envie de consommer ». Non, on est libre. Moi, par contre, quand je consomme, je reste assise parce que mes jambes ne me le permettent pas.
Et c'est possible ?
Tout à fait.
Très bien. Bah, écoutez, on va commencer notre émission. Donc, alors, je ne sais pas si lesquels d'entre vous connaissent Arrêt sur image. On va donc revenir sur ce reportage de France 2 et on va en parler avec le patron, M. Sally, et avec la journaliste du Bondy Blog qui a fait une contre-enquête sur cette enquête de France 2. Et je vais donc aller prendre place sur le plateau avec nos invités. on est donc installé au Jockey Club. On est attablé. Vous avez vu tout à l'heure l'extérieur de l'établissement. Donc, il n'y a pas de doute, on est bien au Jockey Club. Et on va revenir avec nos invités d'aujourd'hui sur toute cette séquence, donc, qui commence par ce reportage de France 2 de décembre dernier, expliquant que il y avait des bars dans la banlieue parisienne qui étaient interdits aux femmes et donc qui venaient en faire la preuve au Jockey Club. On va revenir sur toute cette séquence avec nos invités d'aujourd'hui, à Marcel Lee, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Vous étiez derrière le comptoir.
Tout à fait.
Là, vous avez traversé le comptoir pour venir un peu répondre aux questions. Avec nous aussi, Nassira El Mouadem, donc directrice du Bondy Blog. Alors, le Bondy Blog qui a réalisé, il y a une quinzaine de jours, une contre-enquête, justement, sur cette enquête de France 2, contre-enquête dont on a largement rendu compte dans Arrêt sur Image, mais dont on attend encore que France 2 rende compte, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, on a mis en place un compteur de tous les jours où France 2 n'a pas encore rendu compte de votre enquête du Bondy Blog. Mais on va commencer par la chronique d'Océane Rosemary. Vous avez regardé attentivement le traitement des attentats à la télévision française en remarquant quelques différences.
Absolument, Daniel. Cette semaine, deux attentats en France, comme vous le savez. Un dans un lycée de Grasse et un à l'aéroport d'Orly. Et comme d'habitude, deux façons bien différentes de traiter les assaillants et cette information dans les médias. Alors, en effet, à Grasse, le jeune Kylian est immédiatement défini comme fragile et déséquilibré, mais à aucun moment le moindre soupçon d'un acte terroriste ou politique.
La fusillade dans un lycée de Grasse, un élève de 16 ans a ouvert le feu, le proviseur et trois autres adolescents ont été blessés par les tirs. La piste terroriste est écartée, l'agresseur est décrit comme fragile et fasciné par les armes.
Après une dispute dans sa classe la semaine dernière, le tireur avait publié sur la messagerie de l'école des photos étranges. Un tireur qui pointe son arme sur l'objectif et une photo de corps au sol ensanglanté. Enfin, dernier élément ce matin, on a appris que le tireur s'était procuré ses armes chez ses parents et son grand-père.
Visiblement, c'est l'acte fou d'un jeune fragile et fasciné par les armes.
Il m'a dit non, j'ai pas fini ma mission.
Après cet échange, Kylian est interpellé et placé en garde à vue. La piste terroriste est rapidement écartée par les enquêteurs.
Ah oui, il a dit qu'il était en mission quand même. Pourtant, l'enquête autour de Kylian montre qu'il suivait des chaînes de youtubeurs militants d'extrême droite. On peut lire d'autres éléments publiés en ligne tentent à montrer que le jeune homme était aussi fasciné par une certaine imagerie violente proche de l'extrême droite américaine ou européenne. On apprend aussi qu'il jouait à un jeu vidéo assez original où l'idée c'est de buter tout le monde dans la rue. Un jeu édité par le sudo-polonais Destructive Creations, suspecté de sympathie envers un groupe néo-nazi et qui a bénéficié du soutien du mouvement Gamergate et des sympathisants masculinistes et conspirationnistes. L'article du Point est d'ailleurs particulièrement édifiant à ce sujet. D'un point de vue psychanalytique, on peut carrément parler de déni, puisque le chapeau de l'article dit « Les rares activités du jeune homme de 17 ans sur les réseaux sociaux esquissent une personnalité fragile et inquiétante, mais aucune motivation politique. » Alors qu'à l'intérieur même de l'article, des éléments nous montrent que le jeune Kylian baigne dans un univers radical, puisque c'est le fils d'un conseiller municipal élu sur la liste FN, on peut quand même parler de radicalité dans le cas du FN, et on apprend aussi qu'il dessinait des croix gammées sur ses cahiers. C'est quand même un peu politique radical, non? Pourtant, ni le père ni le grand-père du jeune homme n'ont été placés en garde à vue, bien que les armes leur appartiennent, contrairement à la famille de Ziyad Ben Belkacem, tué à Orly après avoir tenté de voler une arme à des militaires. Là, moins de 10 heures après les faits, France 2 n'a aucun problème pour dire qu'il s'agit d'un acte terroriste.
Il avait effectué plusieurs séjours en prison. En 2013, à la maison d'arrêt d'Oni, il est signalé comme pouvant s'être radicalisé. Mais les vérifications à l'époque, comme celle de 2015, n'avaient rien révélé. Comment ce braqueur a-t-il basculé dans le radicalisme? L'enquête commence.
Le procureur de Paris a évoqué ce parcours violent et destructeur. Il est également revenu sur le passé judiciaire chargé de cet homme de 39 ans. Et pour François Molins, eh bien, le caractère terroriste de cette attaque ne fait aucun doute.
Et il faut attendre le JT du lendemain, le 19 mars, pour qu'on se demande si éventuellement peut-être l'homme n'était pas juste complètement déséquilibré.
Sur lui, on retrouve un Coran et de l'argent liquide. Mais pour les enquêteurs, l'homme a plutôt un profil de délinquant.
Il n'a jamais été un terroriste, mon fils. Jamais il a fait la prière et il boit. Mais s'il le fait de l'alcool et le cannabis, voilà où on arrive. C'est un choc. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la fréquentation, puis la drogue, et puis en fin de compte, c'est moi que je paye.
L'homme vivait à Garges-lès-Gonesse, au sixième étage de cet immeuble. Chez lui, les enquêteurs retrouvent une machette et de la cocaïne.
C'est vrai que picoler et prendre de la coke, c'est pas exactement le premier signe de radicalisation islamiste, hein, à la base. Mais qu'à cela ne tienne, il a parlé d'Allah en s'attaquant aux militaires, donc forcément, il a reçu des ordres de Daesh. Apparemment, aucun média n'a l'air d'envisager que des gars borderline puissent péter les plombs et se prendre pour des djihadistes en mission suite à des problèmes psychologiques cumulés à une consommation excessive de psychotropes. D'ailleurs, dans le cas de l'attaque de Charleston ou de la mosquée au Québec, le jeune blanc, hein, vous avez vu, a été soigneusement arrêté, bien qu'il ait tué et ou blessé plusieurs personnes, alors que, comme dans toutes les attaques perpétrées par des supposés terroristes islamistes, qu'il y ait des blessés ou pas, on tue directement l'agresseur, c'est quand même plus sûr et ça serait dommage de le laisser vivre. Bref, cette semaine, tout s'est déroulé absolument normalement au pays de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Le seul événement troublant de ces derniers jours, et je finirai là-dessus, étant cette sortie de Le Pen pendant le grand débat de la présidentielle.
Et c'est sous la pression de ces revendications incessantes, qui sont des revendications vestimentaires, des revendications alimentaires, non seulement il faut promouvoir la laïcité, mais il faut lutter contre le communautarisme.
Alors on est d'accord qu'elle parle de communautarisme et de pression vestimentaire avec derrière elle trois clones, des hommes blancs environ du même âge, tous habillés en costard-cravate. Mais c'est ça, c'est du communautarisme. Et elle parle de pression alimentaire alors même que son parti fait la chasse au halal et milite pour un menu unique à la cantine. Du coup, je comprends plus rien. Le Pen est-elle en train de nous dire enfin qu'elle va lutter contre son propre parti communautaire où la pression alimentaire et vestimentaire est au plus haut? Ah bah ça serait une bonne nouvelle.
Allez, merci beaucoup Océane, on va changer de chaîne, on était sur TF1, on va immédiatement passer sur France 2 pour revenir sur ce fameux reportage du 20h de France 2, donc sur votre bar à Marsali, le Jockey Club de Sevran. Alors je suis désolé, mais on va vous repasser le reportage de France 2, que vous avez déjà dû revoir, j'imagine, un certain nombre de fois. Donc c'était le 7 décembre dernier, et c'était sur France 2.
Regardez ces images. Des terrasses de café, des rues. Elles ont un point commun. Les femmes semblent effacées. Dans certains quartiers populaires, les hommes occupent les lieux et les femmes subissent. Dans cette banlieue parisienne, nous suivons deux militantes de la Brigade des Mères. Nadia Remadna et Aziza Saya se battent pour la liberté des femmes dans ces quartiers. Pour nous montrer la réaction des hommes, elles filment dans un bar en caméra cachée. Dès l'entrée, on leur demande pourquoi elles viennent.
Cherchez qui, madame ?
On cherche quelqu'un.
Un monsieur ?
Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants.
Le mieux, c'est d'attendre dehors.
Pourquoi ? Ici, il y a que des hommes. Ben, c'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous ?
Moi, c'est pour vous.
Non, pour moi.
Le patron du bar n'a pas envie de discuter. Ah bon ? D'autres hommes sont choqués de voir ces femmes.
Je m'en fous, on va se faire discrète, petite, dans un coin.
Il n'y a que des mecs dans ce café.
Mais comment c'est normal qu'il n'y a que des mecs ? Imagine que tu veux prendre un café avec une cousine, une amie, ta femme. Non ? Normal. Ta cousine, elle reste chez elle. Ah bon ?
Elle fait ce qu'elle veut, mais pas avec moi. Ben voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité.
Mais est-ce que c'est normal ?
Mais à Sevran, on n'est pas à Paris.
Même à Sevran, c'est la France.
T'es dans le 93.
Et alors, le 80. Et alors
à Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme on l'est.
Alors, ce fameux reportage à Marsali, ce fameux reportage, vous l'avez découvert le soir même à la télé quand il est passé ou plus tard quand on vous l'a signalé?
Non, j'étais sur la chaîne et le départ, j'ai changé de chaîne parce que je me dis, c'est toujours pareil, c'est toujours le matraquage, c'est obligatoire. On était à une centaine de jours des élections, donc on va regarder quelque chose de plus plaisant. Bon, voilà, il était 8h, donc je change de chaîne. Bon, je suis un assidu, j'aime bien la 2, c'est la chaîne où je cotise, je paye, je suis actionnaire de la chaîne, comme tous les gens ici.
Qui payent leur redevance.
Voilà, ouais. Voilà. On m'appelle, quelqu'un m'appelle, la compagnie me dit « sur la Doue, on parle de ton bar. » Bon, je change, puis je vois la fin à Lyon, là, l'autre truc. Voilà, sans me préoccuper, je reçois un autre appel, quelqu'un m'appelle, il me dit « On a vu le bar, là. Tu te rappelles du truc ?» Bon, vaguement, j'essaie de me souvenir. Bon, je vais dormir l'une de mes dernières nuits où j'ai bien dormi, parce qu'après, je dors plus. Et le lendemain matin, les gars, avec Internet, moi, j'ai pas tous ces outils-là, voilà. Moi, je suis un mec lambda, simple. On me passe, je dis, ouais, tiens, voilà, je me rappelle, là. Au même moment, j'ai quelqu'un qui est venu exceptionnellement ce jour-là et qui me donne la date du tournage, 17 octobre. Sorti le 7 décembre, voilà, 20h et quelque chose. Bon, puis après, les boutades, les là, bon, j'entends le lendemain. Je vois là, déjà la première chose, le jeudi, on en parle une certaine chaîne. Bon, il y a un débat. Le vendredi, la personne qui fait le reportage, elle a invité, pareil, alors une heure d'audience. Et vas-y, étape sur droite, étape sur gauche, vas-y, on va y aller. Moi, je ne savais même pas que ça allait prendre une ampleur comme ça.
Et alors, c'était sur quelle chaîne, ça que... C'était une des deux...
Oui, toujours. Une toujours des la deux, présidente deux... de l'association ouais. qui ne sert à rien.
La Brigade des Mères, oui.
La Brigade des Mères, oui. Mmh. Bah, j'espère que ses enfants, ils se portent bien. Hein.
Qu'est-ce que je veux dire Alors, vous dites que ça a été tourné le 17 octobre.
17 octobre, samedi 17 octobre.
Et au moment du tournage, vous étiez là, vous, dans le bar?
J'étais au bar, oui.
Et donc, vous vous souvenez de...
Ah, je me souviens comme si c'était là. Donc, la fameuse Nadia est rentrée. Vous avez bien vu, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui était un peu perdu à Sevran. Il manque quelque chose, il manque à Sevran. Bon, bah ça, je vais faire appel au maire et puis au service. Bon, il faudrait un petit peu de plan. Des plans et puis des... Voilà. Bon, quelqu'un qui cherchait une rue...
L'appel est passé.
Voilà, exactement. Bon, voilà. Bah, c'est souvent comme ça. Et puis, il y a souvent des gens qui sont perdus. Bon, la mairie, elle a changé de place. On cherche une petite rue. Hein. Le docteur par là. Bon, un truc comme ça. Donc, Nadia Emanna est rentrée. Elle a demandé... Il y avait deux clients là qui sont adressés. Donc, on voit. Il lui demande, vous cherchez quelqu'un? Voilà, bon. Et c'est coupé, là. La scène est coupée, c'est tout. Alors, parce qu'elle a filmé, elle le dit sur RMC, sur Brunet, le 9 décembre, de 13h à 14h, elle passe une heure, elle a remis à France 2 plus de 25 minutes d'enregistrement. C'est pas moi qui le dis, c'est elle.
Ce qu'on appelle des rushs, c'est-à-dire l'enregistrement intégral de tout ce qu'elle a tourné.
Tout à fait, plus de 25 minutes. Voilà, donc... C'est monté, après c'est un montage. Alors là, c'est du papier collé. Ça me fait penser, vous savez, ça me fait rigoler, ça me fait penser que le grand... je ne me rappelle plus, Colin Powell. Je regarde un peu les reportages.
Colin Powell, secrétaire d'État américain sous George Bush.
Voilà, oui. Avec des dessins animés, il a déclaré une guerre. Vous savez, il a fait des dessins, comme on fait ça à la maternelle. Puis ils ont été faire une guerre. Bah, ça m'a fait pareil. Ce qui m'arrive à moi. Mais je ne pensais pas que ça allait prendre une ampleur comme ça.
Ni que ça allait vous arriver à vous.
Oui, voilà, on est des gens... Voilà, on est... Bon, Sevran, c'est un quartier... la ville de Sevran, le quartier d'où j'ai mon commerce. C'est populaire, comme je dis toujours avec boutade, parce que j'ai beaucoup d'humour, faut pas croire.
Qu'un
lapin, il pourrait ouvrir la porte, parce que c'est le plus dur. Il viendrait s'asseoir, il me commanderait un jus de carotte, je le sers, je suis tout là pour travailler.
Alors, pour être très clair, la voix qu'on entend dans la caméra cachée, là, ici, c'est comme au Bled, on n'est pas à Paris, c'est pas vous. Mais d'ailleurs, le commentaire ne dit pas que c'est vous, mais laisse penser que c'est vous.
Tout à fait.
Puisqu'on parle de vous juste avant et qu'ensuite on entend la voix. Et alors, c'est la voix de qui?
C'est la voix d'un client, voilà, qui était là en train, parce que ici, voilà. On joue au jeu, on fait notre petit loto sportif. Moi, j'aime bien le ballon parce que je joue au ballon. Je connais, il y a beaucoup de sportifs qui viennent ici. Je ne peux citer les noms. Il y a des gars qui ont fait carrière. Il y a ce matin, j'avais le papa, un joueur qui joue à Caen, qui s'appelle Diomandé. Le papa, il n'a pas bu son petit café là. Il me parlait qu'il a un jeune fils sympa. On discute de tout ici. On peut discuter tout.
Mais alors ce client qui dit ça, vous en avez reparlé ensuite avec lui?
Oui, non mais...
Mais
ce client-là, il a agressé. Il a agressé parce que ce gars-là, il vient là, puis au bout de 20 minutes, je sais pas, c'est une question de bon sens, c'est une question de sagesse.
Il s'est senti agressé?
Bien sûr. Il n'a pas arrêté, elle n'a pas arrêté, il n'y a pas de femme ici, ceci, cela. Et une inconnue, c'est une inconnue pour nous. C'est une personne...
Parce qu'elle habite Sevran, hein.
Oui, elle habite Sevran, on ne la connaît pas.
On parle de Nadia Rebadna, donc la présidente de cette Brigade des Mères. Voilà.
On ne connaît pas les 54 000 habitants de Sevran, je ne les connais pas tous. Voilà, c'est tout. On ne la connaît pas. Bon, j'en ai entendu parler, mais pas personnellement, pas en bien. Voilà, je vais vous le dire, pas en bien. Mais bon, j'en parle pas, elle ne m'intéresse pas du tout. Et donc, elle le persécute, c'est le seul. Ils étaient une dizaine autour, et au bout de une dizaine de minutes, les gens sont affairés à faire leur jeu. Voilà pourquoi ils ont l'habitude de venir ici, boire leur café. Bon, puis il n'y a pas de débat, c'était toujours là, parler de la Syrie. Voilà, surtout la dame qui était avec elle, soi-disant qui avait perdu. Alors au départ, quand elles sont rentrées après à deux, donc j'ai fait le tour du bar, je vous remémore comment ça s'est passé, j'ai très bonne mémoire, et on le verra le jour où je pourrai obtenir le rush. Vous verrez, mes dires là sont enregistrés, et moi je sais ce que je dis. Je me suis présenté devant eux, je devais être à 30 cm, je les ai invités à s'asseoir, à s'attabler, et de consommer.
Excusez-moi, mais vous l'avez réinvité sur quel ton ? Chère madame, venez vous asseoir. Des fois, dans les bars, on est invité à consommer sur un ton un peu sec, ça peut arriver.
J'ai une voix douce.
Oui, on voit bien, mais voilà. C'était gentil, c'est une invitation gentille.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, les rushs, ces fameux rushs de France 2, je crois que vous les avez demandés à France 2.
Oui, j'ai envoyé un huissier. Bon, on lui a mis au milieu sous le fait. Alors, le biais, bon, je n'ai pas le papier là, mais sous le fait de la confidence du journaliste,
le
voilà.
Secret
des sources, voilà.
Le secret des sources qui a été opposé.
Voilà.
France 2 a opposé le secret des sources.
Voilà, tout à fait, voilà.
Bon, mais en tout cas, ces rushs existent.
Bien sûr, ils existent.
Quand vous lui avez proposé de s'asseoir, elle a refusé finalement.
Oui, elle a continué la discussion, voilà, comme ça. Et puis le rush, là, l'histoire du truc, il vient 20 minutes après. Ouais. 20 minutes, on doit parler politique. Ici, on ne parle pas politique, surtout. Je vais vous dire une chose. Il y a une question de moralité et de bon sens. La religion, c'est personnel, et la politique, c'est personnel. Voilà, moi, je ne vais pas demander à quelqu'un. Tiens, tu vas voter qui vote. Bah, écoutez bien, je suis né.
Après, il y a des bars où on parle politique, ça
oui,
arrive.
Voilà,
hein. En France, ça arrive qu'au comptoir, de temps en temps, on parle politique. Chez vous.
Oui, non, mais si, on peut en parler. Non, mais on peut en parler. Ouais. Si quelqu'un a une discussion, on peut en parler. Ouais. Moi, personnellement, j'en parle pas. Moi, j'ai certaines convictions, mais je ne vote pas.
En général, pour le patron, il vaut mieux pas trop prendre parti.
Oui, vous avez tout compris.
S'il veut garder tous ses clients.
Voilà, exactement. Mais bon, voilà, on va débattre, nous. On va débattre d'un débat comme il y a eu hier, ce matin, on en a parlé un petit peu. Bon, il y avait votre équipe qui était là. Ça m'a fait sourire quand j'ai entendu. Fillon, il est comme moi, c'est une victime. Voilà, c'est une victime du système, c'est toujours une victime. Mais lui, il a été pris la main dans le sac, c'est pas pareil.
Alors, je voudrais juste qu'on voit la fin de ce reportage de France 2, puisque ensuite, après cette fameuse séquence, elles expliquent dans quel esprit elles l'ont tourné. On va écouter.
Pourquoi les hommes rejettent-ils les femmes ? Un problème de tradition, de culture, mais aussi de religion, selon ces militantes.
En 2005, quand il y a eu les révoltes des banlieues, on a appelé les grands frères pour calmer les jeunes. Et puis voilà, ce qui dit grands frères, ça veut dire qu'on a exclu déjà la femme, on a exclu la mère, on n'a pas fait appel aux parents, ce qui aurait été plus légitime. En fin de compte, on a donné la place à ces hommes qui aujourd'hui... J'allais pas domine, mais qui ont pris les quartiers, qui ont pris la place, quoi.
L'islam, ils l'ont mixé. Pour moi, l'islam, c'est comme le code pénal maintenant. Et voilà, faut pas faire ça, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Tout est interdit, alors qu'on est en France quand même.
Et aujourd'hui, je pense que.
Pendant l'interview, une voiture s'arrête.
Voilà, on peut pas se dire, parce que notre combat, il est légitime. Plus jeune que je connais, mais bon,
une façon d'intimider ces femmes régulièrement menacées. Elles préfèrent arrêter l'interview.
Alors la voiture, je sais pas, vous avez reconnu la voiture, non ?
Oui, je sais, c'est quoi ?
Alors c'est quoi ? Ah bah voilà. Allez-y.
C'est la BAC.
La voiture, non ?
Ouais, c'est la BAC.
Ah non, c'est une belle voiture pour la BAC. Hein.
Bah c'est la BAC.
D'accord.
On l'a tourné 10 jours avant, on l'a tourné entre temps.
On va la revoir là. Et ils ont des voitures banalisées comme ça.
Oui, bien sûr.
La BAC, d'accord.
Ça, c'est la BAC. Vous demandez à n'importe qui à savoir de la rue, va vous dire c'est la BAC.
D'accord. C'est la voiture, vous la connaissez ?
Oui, bien sûr. C'est la BAC.
Très bien.
Il y a
anticrimination. Vous avez vu ? Ils ont demandé. À mon avis, moi, vous savez, j'ai une certaine réflexion, une certaine aisance. Je ne l'ai pas vu tout de suite parce que je n'ai pas vu là. À chaque fois, je me suis arrêté là. Mais quand on a retravaillé dessus avec des gens, et tous les petits jeunes là qui sont ici, qui connaissent un petit peu, ils vont vous dire, c'est la BAC.
D'accord.
Voilà.
Alors, Nasser El Moadem, cette brigade des maires, on va parler de votre plan d'enquête tout à l'heure. Cette brigade des maires, est-ce que vous la connaissiez déjà? Est-ce que vous connaissiez ses activités, son militantisme avant cette affaire-là?
Oui, bien sûr, mais la brigade des maires est régulièrement invitée sur des plateaux télé, dans des reportages, lorsqu'il s'agit de parler de cette soi-disant islamisation des quartiers. Et là, c'en est un exemple, mais plusieurs jours auparavant, Nadia Remanna avait été invitée sur des plateaux, plusieurs jours après, donc c'est devenu une figure médiatique et même une facilité aussi de la programmation de certaines émissions. Lorsqu'il s'agit de parler de ces questions-là, on invite Nadia Remanna.
Et quel est leur discours habituel? Quelle est leur action? En quoi ça consiste?
Alors ça, c'est un peu compliqué. Pendant la contre-enquête, on a évidemment parlé à plusieurs militants associatifs ici à Sevran pour savoir un petit peu quelles relations ils avaient avec cette brigade, avec cette association. Et plusieurs d'entre eux nous ont dit que depuis plusieurs mois, ils ne savaient pas du tout quelles étaient les actions concrètes réalisées sur le terrain par cette association. Et donc voilà. Donc,
et vous, auparavant, au Bandiblog, vous avez déjà eu affaire à cette association? Vous aviez déjà traité de ces activités?
Non, pas encore. On les avait pas découverts parce qu'on les connaissait, encore une fois, médiatiquement parlant, c'est une association connue et dont on avait aussi entendu parler lors de différents reportages, pas forcément sur cette question-là. Mais effectivement, c'est la première fois qu'on se penchait éditorialement parlant sur cette association.
Alors, ce qui a été incroyable avec ce reportage de France 2, c'est que bon, il est tombé au début de la campagne électorale et que toute la campagne, enfin presque toute la campagne, s'en est immédiatement emparée pour en faire un thème. Alors, on a fait une petite sélection. Il n'y a pas tout parce que vraiment le thème est revenu très très souvent dans les débats. Une sélection.
Récurrent, mais.
Beaucoup de Français ont été scandalisés par ce qu'ils ont vu, qui confirmait ou révélait l'autre soir à travers le reportage courageux de Caroline Sen sur France 2. À Sevran, si proche de nous, des islamistes interdisent l'accès d'un bistrot à des femmes qui sont décidées à imposer l'égalité. Est-ce que l'arrogance de ces islamistes n'est pas choquante et comment y mettre fin ? Si c'est possible.
Ce qu'on a vu dans ce reportage, moi je trouve que ça plante un coup de poignard dans le cœur de la République.
L'islamisme, par exemple, c'est ce café de Sevran qu'on avait vu dans un reportage de France 2 où des femmes étaient interdites d'entrer parce que des islamistes avaient estimé que c'était réservé aux hommes. Et ça se passait en France en 2016 à Sevran.
Souvenez-vous en effet du café de Sevran où des femmes ne pouvaient même pas pénétrer dans l'établissement uniquement parce qu'elles étaient des femmes.
Je pense que vous sous-estimez fortement les problématiques du communautarisme, les difficultés de l'islamisme intégriste et les problèmes posés par une immigration trop importante pour nos capacités d'intégration. Je voudrais qu'on en parle avec un exemple concret, qui a d'ailleurs été mis sur la table par France 2 et qui à l'époque beaucoup choqué les Français, qui était un reportage sur les difficultés d'intégration des femmes dans les quartiers.
Le café de Sauron.
Alors, en regardant ce dernier extrait donc, de Laurent Wauquiez et Benoît Hamon, vous avez dit « ça, c'est le pire ». Pourquoi ?
Ben, je sais pas, on est à le 9, on était à combien, une quarantaine de jours du premier tour. Moi, je pars d'un principe, 6 millions de chômeurs, 10 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, 4 millions de personnes qui sont mal logées, une dette abyssale, mais abyssale, et aucune question sur le programme, on vient taper encore sur une communauté, sur une ville. Non, c'est pas raisonnable. On peut pas représenter, on n'a pas de valeur. Moi, pour moi, il n'y a pas de valeur.
Est-ce que c'est cette récupération politique qui vous a décidé à faire cette contre-enquête? Comment ça s'est passé?
Il y a deux éléments qui nous ont incités à faire la contre-enquête. Le premier, c'est la méthode utilisée par France 2. Moi, j'ai été beaucoup choquée, en fait, que cette caméra cachée soit, en fait, confiée à un tiers groupe.
Alors, je rappelle que vous êtes journaliste de télévision à la base. Hein.
Moi je suis journaliste de télévision. J'ai travaillé à iTélé, à Canal et à France 2 en l'occurrence, pour le 20h, en l'occurrence, notamment à l'œil du 20h. Mais peu importe. Moi, bah non, ce qui
compte,
nous a...
Ça compte quand même. Ça compte
sur notre connaissance, en fait, de effectivement, la méthode qui parfois est utilisée. Utiliser une caméra cachée, ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est d'ailleurs déjà arrivé à France 2. Le souci ici qui est posé, c'est que cette caméra cachée, elle n'est pas réalisée par la journaliste de France 2, mais elle est confiée à une tierce personne. Ça peut aussi arriver, mais le problème, c'est que cette tierce personne, et notamment Nadia Remanna, attise beaucoup de réactions négatives dans les quartiers. Et dans notre contre-enquête, quand on a rencontré les gens, que ce soit ici dans le café ou ailleurs à Sevran, et notamment autour du café, et aussi avec ces militants associatifs dont je parlais tout à l'heure, c'est que tous nous disent « nous, on n'a aucun problème personnel avec cette dame-là. Ce qui nous pose souci, c'est le discours qu'elle utilise et c'est la stigmatisation dont elle fait preuve dans ses sorties médiatiques. »
Alors, sur ce plan particulier de la caméra qui a été confiée aux militantes et hors de la présence de la journaliste, il faut juste signaler qu'il y a déjà une mini-tromperie dans le reportage de France 2, puisque le commentaire dit « nous suivons de militantes ». Donc, on peut avoir l'impression que la journaliste les suit. Or, vous, vous êtes formelle, la journaliste n'est pas entrée ici au Jockey Club.
Elle n'est pas entrée dans le Jockey Club selon les dires de M. Sali ici présent, selon les dires des clients qui étaient aussi présents ce jour-là, et selon les dires de Mme Remanna elle-même, voilà, qui au départ n'a pas souhaité répondre à toutes nos questions, et lorsqu'on l'a recontactée suite à la réponse de France 2, qui est en fait une non-réponse, là, elle nous a bien confié qu'effectivement, Mme Sins, Caroline Sins, la journaliste de France 2, n'était pas là. Ce qui pose problème, pour que tout le monde comprenne, c'est que à partir du moment où on confie cette caméra cachée à une personne qui suscite des réactions négatives, le résultat est biaisé, forcément. Il faut que la méthode de l'enquête soit la plus neutre possible pour que le résultat le soit aussi et qu'il n'y ait pas après d'entachement sur le résultat.
Sur ce point particulier, Nadia Remanna, elle était connue des personnes qui étaient là ce jour-là, le jour où elle est venue tourner ?
Une personne extérieure qui est dans le milieu associatif, voilà, qui la connaît, qui a eu affaire, qui la connaît. Parce qu'elle a fait tous les partis. Hein. Elle a fait tous les partis. Je crois qu'il y a combien ? Trois partis, quatre partis en France ?
Il y en a plus.
Façon de parler, en gros, comme ça. Elle a fait les quatre partis. Hein. Voilà,
Donc c'est une figure connue localement, relativement
connue. Plusieurs des clients étaient là ce jour-là, moi, me l'ont confié, qui connaissaient. Alors, pas personnellement, encore une fois, mais qui connaissaient Nadia Remanna, son discours et les sorties médiatiques qui sont les siennes.
Alors, je précise que, bien évidemment, nous avons invité Nadia Remanna à venir discuter avec nous aujourd'hui et qu'elle a refusé après une longue conversation avec Robin Andraka, qui la racontera d'ailleurs dans un article à part de cette émission. Alors, cette contre-enquête, ça a présenté des difficultés particulières. Comment ça s'est passé ?
Et donc, juste pour revenir à la question initiale, il y a la méthode, et puis ensuite, effectivement, il y a la récupération politique. Mais la récupération politique, pour nous, elle n'est pas étonnante. On est en pleine campagne électorale. Il faut se souvenir qu'il y avait la campagne de la primaire à gauche, avec une opposition frontale sur cette question-là entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Mais notre souci à nous, en tant que journaliste, c'est non pas la récupération politique qui est assez banale, mais c'est en réalité l'amateurisme de certains de nos confrères. C'est-à-dire qu'on a vu de certains de nos confrères poser des questions en affirmant, comme si eux-mêmes avaient vérifié et comme si le reportage le disait, que c'était un café islamiste. Or, le reportage dit effectivement qu'il y a un souci avec la religion, et là aussi, ça pose aussi plein de problèmes d'ordre éthique, parce qu'il n'y a pas d'équilibre, en fait, dans ce sujet. Il faut savoir que c'est la parole de Remanna contre la parole de Remanna. Il n'y a pas d'autre parole qui puisse équilibrer le sujet.
Alors,
on pose des questions sur la façon dont nos confrères ont interrogé cette question. J'ai un exemple très précis, Daniel. 24 janvier 2017, Manuel Valls, invité de l'émission politique sur France Info, matinale. Le journaliste présent en plateau qui réagit à ce reportage sur Sevran dit, je cite, en interrogeant Manuel Valls, « Est-ce que vous pensez que Benoît Hamon est accommodant avec l'islamisme radical ?» Et donc, voilà. Et là, on est en pleine campagne électorale. Et ça pose de vrais soucis d'ordre éthique et journalistique.
Comment vous contre-enquêtez ?
Alors, on vient ici à quatre reprises. Deux fois, je préviens M. Sali que je viens. Et deux fois, je ne le préviens pas. Et d'ailleurs, pendant ces deux reprises-là, je tombe nez à nez avec un des serveurs. Et M. Sali n'est pas là. Et donc, on reste longtemps. Je sais qu'à deux reprises, je suis restée de 10h à 16h, grosso modo. Voilà. Pour parler aux gens et parce que quand on fait une enquête, ça prend du temps et ça nécessite du temps de discuter et de connaître les personnes qui sont à la fois clients du café et qui habitent... Non, j'ai pas joué. Non, j'ai pas joué. On n'a pas beaucoup d'argent pour dire
ça. On saura tout. Donc vous venez quatre fois.
Ouais, on vient quatre fois, à deux reprises sans prévenir, et on reste longtemps. Et donc on fait un travail d'enquête, somme toute très banal. On rencontre à la fois la clientèle. D'ailleurs, ici, il y a des personnes qui étaient déjà là quand j'étais venue. On rencontre évidemment le personnel et on discute et on gratte et on pose des questions sur ce reportage.
On gratte dans un lieu dans un PMU. c'est ambigu.
On discute, on fait notre travail et on se retrouve effectivement à rencontrer, croiser des clientes femmes. Qui ne sont pas des clientes qui ont vu la lumière, etc., qui ont dit « je vais rentrer ». Non, c'est des clientes qui sont fidèles et qui, en fait, viennent dans ce bar PMU de Sevran depuis plusieurs années. Pour ne citer qu'elle, Hélène Cambion, Jacqueline Amsalem, Elisabeth... Elisabeth aussi, Marie-Jeanne, Josette. Voilà, on en rencontre plusieurs comme ça et qui nous disent toute la même chose. Alors, soit elles viennent... soit avant d'aller au travail ou pendant une pause, elles viennent boire leur petit café. Certaines viennent aussi acheter des jeux de grattage. D'autres nous disent venir le week-end, notamment le dimanche, pour boire une bière, etc. Donc, en réalité, on se retrouve avec un résultat qui est à l'inverse total de ce que nous a proposé le reportage du journal de 20h de France 2.
Voilà. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un bar PMU et que dans les bars PMU en général pas seulement à Sevran, mais partout... On va dire que la clientèle féminine n'est pas la majorité de la clientèle.
Voilà. Bien sûr.
On le dit dans la conférence.
C'est un ratio. Bon, ça va dépendre des endroits, mais vous allez au champ de course. Il n'y a pas besoin que d'aller champ de course même. Voilà.
Comme me l'a dit un des clients tout à l'heure avant l'émission, on a rarement vu des femmes qui poussent le bourrin.
Exactement.
Et puis, c'est vrai que certaines d'ailleurs nous ont dit quand elles viennent, elles ne restent pas longtemps, mais parce que. Effectivement, ce n'est pas forcément un endroit où on a envie de se poser. Et pardon, Amar, mais ça n'a rien à voir avec toi. Mais ce n'est pas un endroit où on a envie de se poser pour rester longtemps, boire un café entre filles. Enfin, il suffit vraiment de venir voir, sociologiquement parlant, la clientèle du café et comment le café est disposé pour se rendre compte que c'est dû à la fois à ce bar qui est un bar de PMU où les gens sont plutôt debout d'ailleurs que assis à regarder les écrans des courses hippiques.
Alors comme dans toute notre enquête, donc vous allez essayer de donner la parole à toutes les parties en présence, à toutes les versions. Donc vous essayez de contacter France 2, la journaliste de France 2. Comment ça se passe?
Alors je commence effectivement par contacter Caroline Sins qui me demande pour quelle raison je la contacte. Donc je lui dis effectivement que c'est à propos de ce reportage-là sur le bar PMU de Sevran. Et là elle me dit je vous renvoie directement vers le service de communication. Il n'y a donc aucun échange sur le fond avec Caroline Sins. Donc effectivement, je vais contacter le service de communication.
De France 2 ?
De France 2, absolument, qui au départ ne souhaite pas répondre en disant qu'il ne commente pas le travail de le journaliste. Je trouve cette réponse assez étonnante. Et donc on insiste et on a ce communiqué qui nous arrive la semaine dernière en nous expliquant que France 2... à respecter les règles déontologiques. Voilà.
Et
on a plein de questions encore. Parce qu'évidemment, toutes les questions que nous avons posées et que nous posons, nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas de réponse sur pourquoi cette caméra cachée est confiée à cette association et pourquoi ce n'est pas Mme Sins qui la réalise, pourquoi Mme Sins n'est pas rentrée dans le café, pourquoi il n'y a pas de parole contradictoire aussi, parce que c'est la parole d'une association et elle a sa valeur. Ce n'est pas une question de dénigrer la valeur de cette association, mais il faut bien rééquilibrer les choses. Le sujet nous dit que c'est un problème lié à la tradition, à la culture et à la religion. On n'a aucun contrepoint, on n'a pas de parole qui puisse aller équilibrer celle-ci. Et puis, il y a aussi un souci avec le commentaire de la journaliste, puisque pendant le reportage, elle dit « le propriétaire » refuse de discuter. Or, à ce moment-là, ce n'est pas la voix de M. Sali qu'on entend, puisque maintenant, M. Sali, je le connais bien, mais c'est la voix de quelqu'un d'autre. Donc là aussi, il y a un problème sur le commentaire de la journaliste.
Voilà, comment on l'a dit. Alors, votre reportage est mis en ligne il y a 15 jours, c'est-à-dire c'était aux alentours du 10 mars.
C'est ça.
Voilà.
Vendredi.
Impact important quand même du contre-reportage du Bondy Blog. Vous êtes vous-même invité, je crois, chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC. On vous voit, on vous entend. J'imagine que vous venez, vous voyez arriver ici un certain nombre de journalistes, non ?
Oui, maintenant. Non, mais avant, j'ai eu une télévision qui était venue. C'était une télévision mexicaine, Televisa. Ils sont rentrés, ils ont tourné.
Après le sujet du Bondy Blog ?
Non, bien avant, bien avant, bien avant.
Après le sujet de France 2.
Ah oui. Oui, après le sujet de France 2.
Mais ce qu'il faut dire aussi, pardon monsieur Salih, mais là c'est très important, c'est qu'il y a une équipe de complément d'enquête, qui est une émission d'enquête, d'investigation, qui fait d'ailleurs un formidable travail de France 2, qui est venue en janvier 2017.
Après le sujet donc du 20h.
Après le sujet du 20h, en repérage pour une éventuelle émission qui était consacrée aux femmes et à l'espace public. Et c'est donc un journaliste de complément d'enquête qui est venu, qui a passé plusieurs heures ici au café. Ce journaliste-là, je me suis entretenue au téléphone avec lui. Et d'ailleurs, il le dit très clairement dans la contre-enquête. Et il explique que oui, lui aussi, il a vu des femmes dans ce café. Et que donc, par conséquent, le résultat de l'enquête de France 2 était à l'opposé de la réalité qu'il avait constaté lui-même sur place. Et finalement, ce tournage ici, dans ce bar PMU de Sevran, n'a pas eu lieu. D'ailleurs, Nicolas Poincaré...
Ça, c'est formidable, ça, quand même.
Et Nicolas Poincaré avait d'ailleurs proposé à M. Salih de poser les fameux fauteuils rouges pour faire un des tournages de l'émission. Et M. Salih a décliné tant qu'il n'avait pas récupéré les rushs de la part de France 2.
Vous avez dit d'accord pour un tournage de complément enquête, mais si vous, France 2, vous me donnez les rushs, et ils n'ont pas donné les rushs.
Tout à fait.
Non, faut s'arrêter une seconde sur cette histoire, parce que ça, c'est formidable. On imagine que le complément d'enquête vient ici être l'arrière-pensée de confirmer ce que disait le 20h de France 2. Et quand ils se rendent compte que c'est pas du tout ça et qu'en fait c'est un bar dans lequel il y a des femmes, plutôt que de faire le reportage en disant finalement c'est un bar dans lequel on peut trouver des femmes, ils font rien du tout.
Voilà. Je lui ai posé la question évidemment au journaliste en lui demandant pour quelle raison finalement ils n'ont pas fait une sorte d'enquête fact-checking fait de l'émission, enfin du reportage de France 2. Il a répondu que finalement lui était parti sur un autre sujet et il avait tourné un reportage autour de Jacqueline Sauvage.
Tout à fait, oui.
Comme par hasard.
Ce qui est vrai. Puisqu'effectivement, à l'antenne, pour ce numéro-là spécial femme, c'était un reportage de Jacqueline Sauvage.
Alors, en tout cas, beaucoup moins d'impact à votre propre contre-enquête que au sujet du 20h de France 2. Très peu de... Alors, à part les invitations de M. Salih, peu d'allusions sur les grandes chaînes. Une allusion tout de même sur Arte, dans l'émission 28 minutes, quand Nadia Redmadna est reçue dans 28 minutes. On l'écoute.
Lundi, c'était ça.
Nadia, parlez-nous de Sevran.
Oui, parce que Nadia Redmadna, vous nommez les choses. Vous avez dénoncé régulièrement la non-mixité dans les banlieues comme manifestation de l'intégrisme dans certains quartiers en France. Et vous avez participé à un tournage qui a marqué les esprits. En décembre dernier. Vous êtes rendu en caméra cachée dans un bar PMU qui s'appelle le Jockey Club à Sevran. Vous vous retrouvez au milieu d'une clientèle 100% masculine. On le voit, pas très accueillante avec vous. Et un homme finit par vous lancer, je raccourcis un peu, dans ce café, il n'y a pas de mixité, c'est comme au bled. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de contre-enquêtes, dont celle du Bondy Blog, il y a quelques jours. Les journalistes se sont rendus sur place. Elles ont rencontré Hélène, Jacqueline, Lucille, Justine et d'autres, des clientes habituées du café. Le propriétaire du bar qu'on voyait dans la séquence s'est confié. Il confie vous avoir invité à vous installer, à consommer, et que ça n'apparaît pas dans le reportage. Bref, cette caméra cachée est un peu démontée. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, malgré tout, de stigmatiser une partie de la population en décrivant une ville entière comme sous la coupe des salafistes?
Alors, qu'on recadre les choses. Alors, nous, on n'a pas été faire une caméra cachée pour dénoncer s'il y a des musulmans ou pas. Nous, c'était pour la place des femmes. Basta. Qu'on recadre les choses. Après, Bondy Blog, franchement, c'est Bondy Blog. Alors, nous, dans le café, on n'a pas demandé aux gens s'ils étaient musulmans, catholiques ou athées. On ne leur a pas posé la question. Nous, effectivement, on a été nous-mêmes les premières choquées d'avoir été virées de ce café. Après, si, effectivement, certains politiques ont fait un combat politique, c'est à eux qu'il faut poser la question. Le problème, c'est que ça s'est vraiment passé. On a vraiment été viré du café. On ne l'a pas inventé.
Voilà. Alors, évidemment, le plus simple, ce serait de donner les rushs. Comme ça, on pourrait voir, en effet, tout ce qui s'est passé. Alors, le Bondy Blog, c'est le Bondy Blog, dit-elle d'une façon allusive, sans vraiment préciser. Il y en a un qui est un tout petit peu plus précis dans une autre émission où lui est opposé votre contre-enquête. C'est Thierry Ardisson. On l'écoute.
Regarde le sujet de Blacko, qui fait plutôt en général un bon travail.
Il y a les cafés, par exemple, le café. Le café quand on dit il n'y a pas de femmes dans les cafés, et le mec dit bah oui, au bled, il n'y a pas de femmes dans les cafés. Bah ici, on n'est pas au bled.
D'accord.
On est en France.
Bon, bah ça,
Pas le bled.
On est allé au point de faire une contre-enquête faite par le Bondy Blog sur ce café.
Ne me parlez pas du Bondy Blog, parce que je vais vous parler de Méclate, de Mehdi Méclate, qui est encensé par la gauche islamo-gauchiste.
Alors, l'affaire Mehdi Méclate, donc une affaire qui est un peu plus ancienne, il y a un mois, six semaines. Est-ce qu'on peut essayer de la résumer?
Il y a un ancien blogueur du Bondy Blog qui s'appelle Mehdi Méclate, certains internautes ont déterré certains de ses tweets, qu'il tweetait non pas en son propre nom, mais en un nom d'emprunt, Marcelin Deschamps. Et donc, le jour de l'enregistrement, du passage, pardon, d'une émission dans laquelle il était invité, lui et Badrouddine Saïd Abdallah, donc un autre blogueur du Bondiblog, pour le livre qu'il sortait, Minute. Des internautes ont déterré donc certains de ces tweets avec certains qui avaient des propos antisémites, sexistes et homophobes. Voilà.
D'accord. Il avait donc été blogueur chez vous, chroniqueur chez vous pendant plusieurs années.
Enfin, oui, tout à fait.
Avant que vous en preniez la direction, d'ailleurs.
C'est comme ça qu'ils ont été d'ailleurs révélés. C'est parce qu'ils sont passés par le Bondiblog.
D'accord. Est-ce que, quand ils étaient chroniqueurs chez vous, est-ce que vous étiez au courant, puisque c'est ce qu'on a reproché, pas seulement au Bondiblog, mais à un tas de journalistes parisiens, finalement, qui leur ont donné la parole, que ce soit les Inroc avec qui ils ont interviewé Christiane Taubira, Pascal Clark, dans son émission de France Inter, qui en avait fait des chroniqueurs, qui s'appelaient les Kids et tout.
Tout le monde savait que Marcelin Deschamps était Mehdi Méclate. Et effectivement, à cette époque-là, Mehdi et Badrou étaient chroniqueurs à la fois de France Inter, passés sur tout un tas d'émissions de télévision ou d'autres chaînes ou des médias pour parler de leur travail. Donc, personne ne découvrait que Mehdi Méclate était Marcelin Deschamps.
D'accord. Mais vous, comment vous gériez cette situation d'avoir des gens, quelqu'un chez vous, Mehdi Méclate, qui faisait des très belles chroniques, d'ailleurs je les ai relues, c'était vraiment des beaux textes, très, très sensibles, et qui en même temps balançait des horreurs sous un pseudonyme sur Twitter. Comment vous gériez ça ?
Mais je pense que la majorité des personnes ont découvert les tweets en question. Il faut savoir que les tweets dataient de 2012. 2013. Tous lus, mais en tout cas, ceux que vous avez montrés là étaient assez anciens. Et donc, moi, je suis patronne du Bondiblog depuis le 1er septembre 2016. Donc, je ne suis pas responsable de tout ce qui s'est passé avant. J'étais blogueuse comme lui. Tout le monde savait que Mehdi Méclate était Marcelin Deschamps. Après, effectivement, je pense que la majorité des personnes ont découvert ces tweets.
Vous dites tout le monde savait. Et comment vous appréciez le fait que pendant des années et des années, des journalistes l'ont fait travailler en ayant parfaitement conscience du contenu de ces tweets, si vous voulez, vous trouvez que c'était...
Mais tous ceux qui ont aujourd'hui travaillé avec lui, d'ailleurs Mouloud Achour l'a dit, Nordine Nabili aussi, beaucoup de ceux qui ont travaillé avec lui lui ont dit « Attention, un jour, ça peut te retomber dessus ». Ça a été dit. Mouloud Achour l'a très bien dit dans un des papiers qui avait été fait à l'occasion de la sortie, justement, du livre de Mehdi. Donc,
mais en même temps, ils ne changeaient rien et ils ont quand même continué à travailler avec lui.
Alors, je ne parlerai pas de France Inter et je ne parlerai pas des autres, hein, mais nous sommes un média associatif. Donc, on ne sait pas travailler des gens. Les deux seules personnes qui travaillent, c'est moi et ma rédactrice en chef adjointe.
Il n'était pas payé.
C'est des piges.
C'est des piges.
Mais c'est un média associatif. On ne salarie pas tous les blogueurs qui sont chez nous. Donc c'est un fonctionnement assez particulier.
Je vous pose la question en général, parce qu'il y a deux façons de voir. Je veux dire, cette situation dans laquelle des journalistes reconnus, parisiens, de médias reconnus, faisaient travailler Mehdi Méclate tout en étant au courant du contenu de ses tweets. Il y a ceux qui disent, bah oui, mais c'était une autre identité, donc voilà, c'était un dédoublement, c'était une provocation assumée, etc. Et puis il y a ceux qui disent, mais non, c'était pas.
Plusieurs journalistes avaient déjà posé la question à Mehdi Méclate. Dans des interviews données au Monde, aux Inroc, Mehdi Méclate parlait déjà de cette histoire de dédoublement, de cette histoire de il avait ce compte de Marcelin Deschamps et qu'il en faisait cette espèce d'exercice de provocation sans limite. Donc je ne comprends pas qu'on fasse semblant de découvrir aujourd'hui, en fait. Moi, je m'interroge.
Vous avez porté plainte contre France 2, vous allez porter plainte, c'en est où ?
Nous allons porter plainte.
Vous avez porté plainte ?
Non, nous allons.
Vous allez porter plainte ?
Nous allons le faire, oui. Parce que mon avocat, il n'a pas que moi à traiter. Il a eu j'espère pour lui, quand même. Et ça va être fait, il faut qu'on se voie, il faut qu'on discute de deux, trois petites choses à revoir, et ça va être fait incessamment sous peu. Et... Et puis ça va être fait, et posément, tranquillement. Déjà, il faut que moi, intellectuellement, il faut que je me reconstruise déjà.
À ce point-là ?
Ah oui. Je suis pas tout seul dans la vie.
C'est-à-dire ?
J'ai ma maman qui a 80 ans, qui est là.
À qui on a parlé
voilà.
tout à l'heure, oui.
J'ai une femme, j'ai des enfants, puis j'ai... Voilà. Et c'est énorme. Alors donc, j'ai besoin... J'ai beaucoup de repos à avoir. Faut avoir... voilà. Puis après, voilà, faut regarder où... Mais la plainte, voilà. Puis moi, il n'y a aucun compromis avec France 2. Moi, il n'y a aucune... Moi, personnellement, je vais au bout. J'irai au bout. Si, c'est obligatoire.
J'aimerais juste apporter une précision par rapport à l'émission de 28 minutes, là, sur Arte. Quand Nadia Dame, donc journaliste de l'émission, pose la question à Nadia Remanna sur le fait que M. Sali l'a invité à boire un verre et à consommer. Quand nous, on lui pose la question, elle ne nie pas. À aucun moment, elle dit « ce n'est pas vrai ». Elle dit « je ne me souviens pas, je ne sais pas, il y avait du monde, il y avait beaucoup de bruit ». Donc voilà, c'est très très étrange.
Très bien. Océane,
une là, votre maman disait que vous aviez en plus reçu des coups de fil anonymes.
Oui, des coups de fil, là, j'ai reçu une connerie. Là. Vous voulez que je vous montre une connerie que j'ai reçue dans la semaine
ouais. Ah bah oui, montrez-nous une connerie.
Maintenez une connerie.
Ah non, vous ne pouvez pas mettre le...
Moussif, va derrière, là, tu vas voir une enveloppe, là, derrière, là où il y a le café, là, tu vas voir. Billy, vas-y Billy.
Alors, ça se passe.
Vous allez rigoler.
Ça se passe en direct, donc on va découvrir cette connerie voilà. que vous avez reçue dans la semaine.
Ouais.
Alors, ouais. Je ne sais pas si on va arriver à zoomer sur Manuel Vicuña va essayer de zoomer sur cette feuille.
Et on passe des meilleurs.
Alors.
Ça, c'est tout nouveau, ça.
Ouais, j'ai reçu ça dans la semaine.
Alors. Donc, vous avez reçu ça. Voilà.
Ouais. Voilà, alors, l'enveloppe, elle est là.
Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit la racaille, qu'est-ce que c'est La racaille. Voilà. Donc, c'est une.
Eh bien, il y a ça aussi, hein.
Ah. Ah oui, il y a ça. Voilà. On a tout filmé. Manuel,
plaisir.
On a tout en boîte. On a
donc,
tout
c'est
boîte.
Vive les femmes dans les bars, sale porc.
Voilà. Bon. Vous avez reçu beaucoup, des comme ça?
Oh, je ne prête pas attention, vous savez, on est rodé. Bon, anonyme, on ne cherche même pas à savoir. Ouais, puis ouais. Bon, malheureusement, il n'a pas une belle écriture. Hein.
Non.
Non.
Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, on vous souhaite bon courage et on continuera ouais, en tout cas.
Merci. On sait que c'est un dur combat. Voilà, tout simplement, comme je dis, pour faire, voilà, pour redonner. Beaucoup de choses, des valeurs. Les valeurs, c'est pas grand-chose, hein, c'est du bon sens, c'est beaucoup de choses. Et, ben, voilà, tout simplement, le CSA, il donne le rush, et c'est une histoire, vous savez qui tombera dans les oubliettes. Voilà, c'est fini, voilà.
Non,
voilà.
On ne la laissera pas tomber dans les oubliettes, nous. Voilà, on continuera, ni vous, très bien. Voilà, on a bien compris. Bon, merci beaucoup.
Merci.
Merci Nassira. Merci Monsieur Sali de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine.
Merci.